Bonsoir. Nous revenons ce soir avec des analystes sur le discours du président de la République hier devant le Congrès. Dans son discours, Joseph Kabila a notamment annoncé la signature d'une ordonnance portant mesures de grâce pour certains prisonniers. Il a également annoncé la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Quelle lecture faire de ces décisions? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Nous recevons comme invité dans cette émission Maître Richard Bondo, président de l'ONG Avocats sans frontières RDC. Il est conseiller à la CPI et au tribunal spécial pour le Liban. Maître Bondo, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur. Professeur Kabamba, on me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Professeur Abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique du Congo et analyste politique. Monsieur l'abbé, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, le président de la République s'est exprimé hier devant le Congrès. Le chef de l'État a annoncé plusieurs décisions et mesures en vue de la cohésion nationale. Parmi ces décisions, Joseph Kabila a notamment fait part de la signature hier matin d'une ordonnance portant mesures de grâce. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Kéline Côté.
Chers compatriotes, en matière de paix et de réconciliation nationale, je partage le vu de délégués aux concertations sur la nécessaire implication de toutes les institutions de la République. Dans cet ordre d'idées, je signais ce matin une ordonnance portant mesures de grâce. J'ai également demandé au gouvernement, une fois terminée la libération conditionnelle de prisonniers civils, de procéder avec diligence à celle de prisonniers militaires et de déposer devant le bureau de deux chambres législatives le projet de loi portant amnistie. Ces mesures permettront, j'en suis sûr, d'instaurer un nouveau climat de confiance entre les Congolaises et les Congolais. Je voudrais cependant rassurer ce dernier que la quête de la cohésion nationale n'est pas synonyme d'impunité. Bien au contraire, sans justice, la réconciliation est factice.
En réaction, certains juristes et défenseurs des droits de l'homme jugent cette ordonnance non objective, car disent-ils, je cite, « la grâce présidentielle doit être individuelle et nominative », fin de citation. L'ordonnance du chef de l'État n'est pas claire, analyse par exemple Maître Richard Bondo, président de l'ONG Avocats sans frontières en RDC. Jeff Ngoy nous en dit plus.
Pas de nom des bénéficiaires de cette grâce présidentielle. À la lecture de l'article 1er de l'ordonnance, la peine de mort est commuée en celle de servitude pénale à perpétuité. Mais l'article 6, alinéa 4, exclut de cette commutation les cas d'assassinat et vol à main armée, alors que ses auteurs sont des condamnés à mort. Ce paragraphe doit être rayé de l'ordonnance, selon Maître Richard Bondo.
Les services pénitentiaires, s'ils fonctionnaient normalement, auraient dû nommer les bénéficiaires. On a toujours fait des griefs pour certaines lacunes qu'on relève dans les ordonnances du chef de l'État, dans le secteur de la justice. L'alinéa que vous venez de me dire, à l'article 6, il fait une contradiction. Il insère dans l'ordonnance. Est-ce que ceux qui sont condamnés pour l'assassinat n'étaient pas condamnés à la peine de mort? Il faut qu'on note que ce paragraphe-là est réputé non écrit. Ceux qui soumettent au président de la République pareille ordonnance ne semblent pas avoir le cœur à l'ouvrage. Ils sont pressés, on dirait même stressés, parce qu'il faut que le président fasse quelque chose.
La mesure de grâce présidentielle est bien accueillie par les défenseurs des droits de l'homme. Mais, en scrutant l'ordonnance présidentielle, le contenu pose problème et appelle à la correction d'après Avocats sans frontières.
Merci Jeff Ngoy. Maître Richard Bondo, je rappelle que vous êtes président de l'ONG Avocats sans frontières RDC. Vous êtes également conseiller à la CPI et au tribunal spécial pour le Liban. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, juste d'abord un bref commentaire sur le discours du président de la République dans son ensemble.
Merci beaucoup Alain de la question. et je salue tous vos auditeurs à travers vous-même. Néanmoins, par rapport au discours du chef de l'État, je l'ai qualifié d'un discours pédagogique. Pédagogique parce que le chef de l'État est revenu, ou néanmoins a insisté sur l'éthique, en disant par exemple, nous-mêmes nous devons changer de comportement, de mentalité, de méthode. Donc c'est un discours pédagogique. Sur ce plan-là, je l'apprécie à sa juste valeur et j'approuve la méthode, le style et le comportement qu'il veut imprimer principalement aux dirigeants et à travers eux tous les autres Congolais.
Alors par rapport à l'ordonnance relative aux portant mesures de grâce, on vous a suivi tout à l'heure dans le reportage de Jeff Ngoy, je souhaiterais qu'on y revienne avec dans les détails parce que cette émission est également pédagogique. Vous dites que l'ordonnance n'est pas claire. Qu'est-ce qui vous inquiète dans cette décision du président de la République?
Je commence d'abord par définir ce que c'est la grâce. La grâce est définie comme une mesure de clémence que prend le chef de l'État en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, notamment pour la RDC, article 87 de la Constitution. Sur requête du condamné pour être dispensé de subir soit la totalité ou une partie de la condamnation initialement, telle que initialement prononcée par la juridiction de jugement. Et ce, la grâce intervient lorsque la décision est devenue irrévocable, c'est-à-dire coulée en force de choses jugées. Or, ici, nous avons une ordonnance qui parle de mesures collectives de grâce. Qui a déposé la requête, un recours en grâce devant le président de la République? C'est ainsi que nous disons. C'est bien que nos compatriotes ou les condamnés recouvrent leur liberté parce que il n'y a pas de prix pour la liberté. Mais il faut bien faire les choses. Ceux qui ont soumis l'ordonnance au chef de l'État à sa signature, aurait dû, il a cité dans l'ordonnance le ministre de la Justice, et aurait dû, Madame la Ministre, annexer, si elle n'avait pas elle ne voulait pas connaître les noms des bénéficiaires, c'est-à-dire des condamnés qui bénéficient des mesures de grâce, des mesures de clémence décidées par le chef de l'État suite à leur requête, Madame la Ministre aurait dû annexé au projet d'ordonnance soumis au chef de l'État la liste des bénéficiaires. Et il en a les atouts. Pourquoi? Parce que il a au sein de ce ministère une direction des services pénitentiaires. Donc les gardiens de toutes les prisons auraient dû répertorier tous ceux qui étaient éligibles à la mesure de grâce qu'on proposerait au chef de l'État. Voilà pourquoi nous disons qu'il va se poser maintenant un problème dans l'application de cette ordonnance. Elle est rendue difficile par ceux qui l'ont initiée et soumise au chef de l'État. Pourquoi? Parce que l'ordonnance est, disons, la grâce est nominative. Elle est personnelle. Or, ici, on dit mesure collective de grâce. Où on donne des catégories des gens qui étaient condamnés pour telle infraction, à telle peine, et puis on ne les cite pas, on laisse maintenant à la discrétion des services du ministère de la Justice de sélectionner les bénéficiaires, avec cette conséquence que dans la confusion et la dégradation des infrastructures du ministère de la Justice, vous trouverez maintenant un clientélisme. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas été condamnés, qui n'ont pas encore été condamnés, ou qui sont condamnés, mais qui ne sont pas éligibles à la grâce, dont les noms pourront figurer sur la liste et recouvrer immédiatement la liberté.
Maître Richard Bondo, il y a Esdras Yav de Mbujimayi au Kasai Oriental qui dit « L'ordonnance présidentielle portant amnistie de certains prisonniers politiques et militaires est beaucoup attendue par le peuple congolais pour voir si réellement le président Kabila est pour la cohésion nationale. Nous attendons, dit-il aussi, la libération pure et simple des prisonniers du procès de Moïse Kabila, injustement condamné par la défunte cour d'ordre militaire il y a 12 ans. Cette ordonnance est un piège pour le président Kabila lui-même parce que sa cour peut l'influencer sur l'amnistie de certaines personnes. »
Oui, je crois que l'auditeur n'a pas tellement tort. Le problème, c'est que la manière dont cette question d'amnistie est gérée, depuis que la ministre a accordé la liberté conditionnelle à certains de nos compatriotes, nous sentons qu'il y a une espèce de précipitation.
Qui tend totalement
vers une opacité, avec cette conséquence que ça nous place, nous, défenseurs des droits de l'homme, dans une certaine inquiétude par rapport à la fiabilité des mesures qu'on prend. Est-ce qu'elles seront appliquées? Elles ne le seront pas. Par exemple, l'éditeur pose le problème d'amnistie. Mais il faut qu'on sache qu'il y a urgence. Et lorsque cette question, parce que l'amnistie est une prérogative des parlementaires, est-ce que ces parlementaires ont à cœur, pendant qu'on leur promet la mise en place d'un gouvernement, et il y en a qui vont se précipiter, au lieu d'aller dans l'hémicycle du Palais du Peuple, se pencher sur la loi de l'amnistie et même la loi budgétaire.
Merci.
Et ils vont se pencher plus sur les tractations pour être ministre au gouvernement.
Merci.
Qui porte à redire.
Nous en parlerons, maître.
Nous en parlerons.
Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. À vous également un bref commentaire sur le discours du président de la République dans son ensemble. Maître Richard Bondo l'a qualifié de pédagogique.
C'était un très très grand discours, un discours d'homme politique. C'est un discours dans lequel il y avait beaucoup de promesses, mais il y avait également beaucoup de perspectives en termes de construction de la paix, mais aussi en termes de cohésion nationale. De mon point de vue, dans ce discours, on a senti qu'il y a une bonne stylistique qui a été utilisée et qui était, bien entendu, rythmée par une stylistique, comme je viens de le dire, politique très bien dosée. Mais ce que l'on peut retenir sur le plan de la forme, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de choses, par exemple la signature dont il est fait allusion ici, c'est que cette signature a été faite le matin, c'est-à-dire le jour même où le discours a été prononcé, ce qui fait dire à notre collègue qui vient de parler,
Maître
Bondo, que l'ordonnance a été prise de manière précipitée. Parce qu'en fait, il y a la structure qui devait suivre l'exécution, donc la mise en œuvre donc des recommandations qui doit être mise en place. Il faudra déterminer l'étendue de ce pouvoir. Il faudra également voir est-ce que elle pourra être concernée par les différentes phases de mise en œuvre et même les différentes décisions d'application qui seront prises. Et donc, du coup, on est encore un peu dans l'obscurité sur la manière dont toutes les recommandations vont être mises en œuvre. Et du coup, le discours du chef de l'État, qui est un discours, à mon avis, très constructif, s'est fait précéder par une annonce, très grande annonce, celle de la signature de l'ordonnance. Et il me semble bien qu'il y ait quand même une certaine précipitation dans la signature, étant donné, comme venait de le donner un certain nombre d'éléments par Maître Bondo, qu'il y a certaines insuffisances qui ont été relevées. Moi, je ne suis pas juriste, mais à l'écouter, je me rends compte que son argumentation est très bien fondée.
Professeur, il y a Célia Kalao qui nous écrit de Lubumbashi au Katanga qui dit « Cette ordonnance n'est rien d'autre qu'une pure aventure. Il fallait commencer par libérer les opposants comme Diomine Dongala, Pasteur Coutinho et les autres. Ça pouvait confirmer la volonté du président de la République de la cohésion nationale. Sinon, c'est simplement de la mascarade. »
Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de la mascarade. Par contre, il faut peut-être mieux faire la lecture des choses. Le chef de l'État a apparemment voulu montrer qu'il a le désir de mettre en œuvre les recommandations. Et donc, avant d'aller au Congrès, lui-même s'est dit, voilà, l'une des grandes recommandations, je vais déjà la mettre en œuvre. Et donc, il signe cette ordonnance. Donc, c'était, à mon avis, une manière de montrer qu'en fait, les recommandations n'ont pas été faites pour demeurer dans les tiroirs, mais je suis déterminé à le mettre en œuvre. Et un exemple est là, je vais déjà mettre l'une des grandes recommandations en œuvre. Et donc, il a signé. Je ne crois pas que c'est la poudre aux yeux. Plutôt, tous nous sommes assoiffés de voir comment les différentes recommandations vont être mises en œuvre. Probablement que la manière dont la première recommandation a été mise en œuvre, tout le monde essaie de regarder qu'est-ce qui est caché derrière. Mais je crois que tous nous attendons comment toutes ces recommandations vont être mises en œuvre et par qui. Parce que jusque-là, l'appétit que nous avons par rapport au dialogue politique n'est pas assouvi. Et donc nous avons hâte à voir comment tout ce qui avait été prévu et tout ce qui avait été recommandé par les participants au dialogue, comment cela va être mis en place et surtout les institutions de mise en œuvre, donc les institutions qui vont suivre la mise en œuvre, comment elles vont fonctionner et quelle est l'étendue de pouvoir qu'ils auront.
Professeur, il y a Isaac Mboulou qui nous écrit depuis les États-Unis, qui dit, est-ce que cette mesure concerne seulement les prisonniers qui sont à Kinshasa ou bien c'est sur l'ensemble du territoire? Est-ce que cela renforcerait réellement la cohésion nationale?
Non, mais je crois que ça ne peut pas concerner uniquement les gens qui sont à Kinshasa. Ça doit également, ça concerne, à mon avis, toutes les personnes qui sont dans les mêmes situations également dans la province. C'est là aussi le problème souligné par Maître Bondo, c'est qu'il faudra que le ministère de la Justice ait non seulement le moyen, mais ait également les capacités nécessaires pour être à mesure de déterminer une liste de toutes les personnes qui entrent dans les critères tels que définis.
Professeur, le président de la République a placé cette décision dans la rubrique où il parle de paix et de réconciliation nationale avec ces lacunes que relèvent déjà certains analystes, certains observateurs dans cette ordonnance. Pourrait-on dire que c'est déjà mal parti?
Non, pas du tout. Je ne crois pas que ça soit mal parti. Je crois qu'il y a là un premier signe. Je crois qu'il faut prendre tout cela positivement. Il y a là un premier signe qui est posé, c'est qu'il y a un geste de très grande envergure qui a été posé, mais rassurez-vous, je crois que les choses pourront s'améliorer dès lors que le comité va être mis en place et qui pourra probablement corriger un certain nombre d'erreurs qui sont constatées aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'on soit mal parti, probablement que le début tâtonne, mais les choses pourront se réajuster si jamais les acteurs ont la bonne foi d'aller jusqu'au bout.
Vous avez aussi suivi Maître Bondo qui émettait certaines réserves. On sait que certains députés pourraient être très préoccupés par la formation du gouvernement que par la loi sur l'amnistie.
Il n'y a pas que les députés, il y a les ministres eux-mêmes. Dès lors qu'on a annoncé, il faut aller très vite parce que quand on annonce qu'un gouvernement va être manié, il faut dire qu'il y a une grande panique au sein du ministère, parce que le ministre se pose la question qui part et qui reste, et du coup, les grands dossiers qu'il faut traiter, ce n'est plus ça la priorité. La priorité, c'est comment faire pour rester. Et du coup, les grands dossiers de l'État sont abandonnés. Merci. Au profit, évidemment, d'un certain mécanisme de survie qu'il faut assurer. Et là, je vous dis que si cette période traîne, la gestion de l'État va en pâtir.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, à vous également un bref commentaire sur le discours du président de la République dans son ensemble.
Par rapport à l'ensemble du discours, l'on peut constater que c'est un chapelet de très bonnes intentions, intentions dont on a souvent déjà entendu parler et qui n'ont malheureusement pas jusqu'à présent été suivies des faits. Je crois que l'on a développé dans notre pays comme un système entretenu de l'inadéquation entre le verbe et l'agir, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ce discours-ci, qui est donc un chapelet de très bonnes intentions et de vœux pieux, nous attendons de voir comment, dans son ensemble, il va être mis en application pour pouvoir prononcer un jugement définitif et valable. D'ores et déjà, cependant, il faut que nous constations que bon nombre des recommandations qui ont été formulées ne sont pas suivies de stratégies de leur mise en application. C'est-à-dire, on nous dit ce que l'on va, ce que on demande, les mesures prises, mais on ne nous dit pas quelles sont les dispositions qui ont été établies afin que leur mise en application soit réelle, efficace, effective, vérifiable sur le terrain. Donc c'est un jugement que je pourrais appeler général. Maintenant, en ce qui concerne la grâce présidentielle qui a été accordée aux prisonniers, je me pose la question de savoir en quoi est-ce que cela concerne la cohésion nationale. Je crois savoir que tout le peuple congolais demande et exige plus de justice, demande et exige la fin de la corruption, la lutte contre la corruption, exige et demande la fin et la lutte contre l'impunité. Je ne pense pas que l'exercice de la justice, que le fait d'appliquer la loi, d'appliquer la rigueur de la loi contre les criminels, que ce soit une matière sur laquelle les Congolais sont effectivement divisés. Là où les Congolais sont divisés, c'est sur les déficiences dans la manière dont la justice est administrée dans notre pays. Et c'est ça plutôt qu'il fallait, c'est à cela plutôt qu'il fallait s'en prendre, à la manière dont la justice est administrée dans notre pays. Effectivement, la justice est gangrénée par la corruption. La justice est gangrénée et rendue non opératoire, dysfonctionne à cause de manque de moyens, à cause du manque de conscience professionnelle dans le chef de beaucoup de magistrats, à cause de la prolifération des antivaleurs, à cause des traumatismes de la guerre. Tout ça fait que la justice est mal rendue. Pour moi, ce qui aurait contribué à la cohésion nationale, ça serait justement de rendre l'appareil judiciaire dans notre pays beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus efficace, beaucoup plus équitable. Et lorsque vous allez dans nos prisons, vous trouvez beaucoup de gens qui sont là, qui sont emprisonnés, alors qu'il n'y a jamais eu de procès, alors qu'ils n'ont jamais été formellement condamnés. Et cela, pour moi, qu'il aurait fallu d'abord assurer. Assurer que la justice est bien rendue, assurer que la justice est bien administrée, de telle façon que ces nombreux innocents qui croupissent dans nos prisons, et souvent dans des conditions inhumaines, contraires aux droits de l'homme, eh bien que ces nombreux innocents puissent être jugés et qu'ils soient libérés ou condamnés, mais que justice soit faite à leur égard. Donc, pour moi, c'est cela qui aurait contribué d'une façon beaucoup plus substantielle à l'objectif de concertation qui était donc la cohésion nationale. Je voudrais en plus ajouter que les premiers prisonniers dont il fallait s'occuper si l'on voulait vraiment que cette mesure participe à la dynamique de la construction de la paix et à la réconciliation, il fallait d'abord s'occuper des prisonniers politiques ou les prisonniers de délits d'opinion. Parce que justement ceux-là justement sont dans le cadre de ce que je peux appeler l'exercice des libertés fondamentales et l'exercice de ce que l'on peut appeler les principes fondamentaux de la démocratie qui n'existe pas sans dialogue et sans liberté d'expression.
Monsieur Labbé,
je pense que cela devrait être l'objet d'un traitement à part parce que ce problème-là est en rapport direct avec le but des concertations
Monsieur l'abbé.
Et la restauration de la cohésion nationale.
Monsieur l'abbé, le président de la République n'a-t-il pas répondu à votre préoccupation quand il dit, je cite, « Je voudrais cependant rassurer ces derniers que la quête de la cohésion nationale n'est pas synonyme d'impunité. Bien au contraire, sans justice, la réconciliation est factice. »
Mais nous constatons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de justice. La justice mal administrée dans notre pays, et pour moi, ça, c'est le fond du problème. Je ne pense pas qu'il y ait des hommes normaux ou des citoyens normaux qui soient contre l'exercice de la justice, qui soient contre le fait que les criminels et les assassins et tous les fauteurs de troubles soient jugés de manière juste et équitable. Je ne pense pas qu'il y ait discussion ou qu'il y ait matière à s'opposer sur ce sujet au sein du peuple. Par contre, le fait qu'il y ait de nombreuses victimes à qui justice n'est pas rendue, le fait qu'il y ait une justice à deux vitesses, une justice à la tête du client, le fait qu'il y ait des abus de pouvoir Merci. Qui ne sont pas sanctionnés, le fait qu'il y ait des gens qui sont condamnés, qui sont en prison sans avoir été condamnés, Merci. Sans avoir été jugés, c'est ça qui fait problème. Et donc c'est à cela qu'il fallait s'en prendre. Il fallait restaurer la justice. Une justice indépendante,
Merci,
capable de lutter contre les inégalités sociales, les abus du pouvoir, la corruption, l'impunité, la violence. Voilà, ça c'est le problème de fond.
Merci,
et ça, ça peut contribuer à la cohésion nationale.
Merci Monsieur l'abbé. Maître Richard Bondo, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient d'Isiro en province orientale.
Maître Jean-Pierre Goumenoté à Isiro, province orientale. Les discours prononcés hier par le président est réellement historique car en pleine primature, le gouvernement congolais prend de grandes décisions avec multiples orientations. Mais est-ce la RD Congo a-t-elle besoin d'amnistier les prisonniers? Que fera-t-elle maintenant à l'égard des compatriotes qui croupissent en prison sans jamais être jugés et condamnés? C'était mieux plutôt de songer à organiser les pouvoirs judiciaires et de construire des prisons dignes de ces noms.
Réaction, Maître Bondo.
Je crois que l'auditeur, moi je pense qu'il y a un problème maintenant de concept. Ici nous sommes en train de discuter de la grâce telle que rendue par le président de la République depuis hier. Mais lui semble invoquer maintenant le problème de l'amnistie. L'amnistie c'est un pardon. L'amnistie efface et les faits et pour les condamnés efface même leur condamnation. C'est ainsi que nous pensons en tant que défenseurs des droits humains, dans la lutte contre l'impunité, ceux qui sont délinquants, ceux qui ont commis des infractions, qui sont poursuivis, doivent être jugés par des tribunaux, leurs juges naturels, mais que ce soit un tribunal consciencieux des juges réellement indépendants qui appliquent la loi, qui ne sont pas souverains vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la Constitution, mais qui sont soumis à des dictats qui viennent de certains apparatchiks du pouvoir. Nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous réclamons de tous les trois pouvoirs l'indépendance de la justice, du pouvoir judiciaire en tant que troisième pouvoir, parce que la justice est le dernier rempart. Prenons par exemple, on parle du juge naturel du président de la République et du premier ministre qui se trouve être la Cour constitutionnelle. Admettons que ces juges de la Cour constitutionnelle n'intériorisent pas leur responsabilité immense par rapport à la vie de la nation. Ils peuvent être complaisants lorsqu'ils vont prendre les causes des chefs de chefs d'État et de premier ministre. C'est ainsi que nous recherchons, nous, que les animateurs de la justice soient bien entretenus, soient bien soignés par l'État. Je crois que notre compatriote, avec des juges à la hauteur des enjeux, à la hauteur des cas leur soumis, vous verrez que la justice serait rétablie et les justiciables pourrait bénéficier alors Merci. D'une justice équitable.
Maître Bondo, le président de la République a également annoncé la formation d'un gouvernement de cohésion nationale composé de la majorité, l'opposition et la société civile. Quelle configuration devrait prendre, selon vous, ce gouvernement avec ou sans Matata?
Non, moi je vous dis tout de suite que c'est là que je ne suis pas d'accord avec le président de la République.
Pourquoi?
Le président de la République, parmi les quatre institutions de la République, telles que ventilées à l'article 68 de la Constitution, c'est le seul, avec les magistrats, qui prête serment. L'article 69 à l'alinéa 2 de la Constitution dit que le président de la République veille au respect de la Constitution. Et quand il prête son serment, quel est son premier engagement? Le premier engagement est d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Or, le président de la République, le 4 décembre 2007, a promulgué la loi sur le statut de l'opposition. Dans cette loi, où on prescrit des devoirs et des droits que l'article 6 appelle sacré de l'opposition. Et à l'article 16, paragraphe 5, l'opposition a le devoir de promouvoir le pluralisme politique et de reconnaître le droit de gouverner à la majorité. Alors, mais d'où viendra, en violation de l'article 78 de la Constitution, qui dit que le Premier ministre vient de la majorité, ou le gouvernement est issu de la majorité parlementaire, d'où viendra ce gouvernement Merci. Avec les opposants en pleine transhumance politique qui vont rejoindre la majorité? Merci. Et c'est pour cela que nous disons que là, le président de la République nous invite, nous les défenseurs des droits humains, de nous Merci. Opposer Merci, à son Merci. Projet à la lumière des articles 63 et 64.
Donc laisser la majorité gouverner jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, quelle est votre analyse par rapport à ce gouvernement de cohésion nationale annoncé par le président de la République?
Moi, j'y vois plutôt un changement de ton, un changement également de comportement. Nous étions habitués à voir la majorité vouloir tout prendre. Quand il y a eu des élections au niveau provincial, même là où la majorité avait été minoritaire, eh bien, la majorité prenait de province entière. Alors là, on voit qu'il y a une nouvelle tournure, des choses que, en fait, les chefs de l'État manifestent une ouverture vers l'opposition, acceptent que cette fois-ci, ils peuvent se mettre ensemble et gérer le pays. Mais le problème n'est pas, il faut dire aussi que la notion d'opposition, quand un parti est dans l'opposition, n'est pas une notion qui est figée. Même à l'Occident, on essaye de voir comment les alliances existent. Un parti accepte aujourd'hui d'entrer dans la majorité, dans le gouvernement, et demain c'est réduit. Mais il faut dire ici que tout dépend de la manière dont ça va être fait. Est-ce que la majorité ou la présidence de la République va consulter les individus de manière individuelle ou elle va s'adresser aux partis politiques? Et donc, s'agira-t-il, comme venait de dire M. Bondo, de bouchage des politiciens, ou il s'agira de continuer les dialogues qui a été amorcé, que ce soit finalement les dialogues entre partis, entre majorité ou opposition, entre, par exemple, PPRD et parti XY, où il s'agira de déboucher. Et donc, tout dépend de la manière dont les négociations entre le pouvoir et l'opposition vont être tissées. Probablement qu'il y aura des partis politiques qui vont accepter d'entrer dans la nouvelle majorité. Et là, ils perdront leur statut d'opposant ou d'opposition. Il est clair qu'un parti d'opposition, à partir du moment où il accepte d'entrer dans le gouvernement, il ne fait plus partie de l'opposition, il devient carrément de la majorité.
Professeur.
Tout dépend, évidemment, de la qui sera utilisée par le pouvoir pour fait composer ce gouvernement d'union nationale.
Professeur, il y a certains observateurs, et c'est aussi déjà le débat dans la société et la classe politique. Certains pensent que le président de la République devrait plutôt laisser le premier ministre Matata continuer son élan, sinon cet élan de développement serait cassé. D'autres pensent qu'il faudrait le remplacer. D'après vous, quelle serait la meilleure formule? On est dans des analyses.
En fait, il faut dire que le premier ministre Matata Ampogno est très difficile à remplacer. Ça, c'est mon point de vue. Il s'est tissé une certaine popularité au niveau de fonctionnaires, surtout, et en particulier de fonctionnaires de Kinshasa. Il a instauré un système de paye à la banque, et il respecte les dates de paiement de salaire. Et donc, le niveau de salaire, on a vu qu'il est resté pratiquement inchangé. Hein, donc, le taux de change est resté très stable, et du coup, il a un bilan économique qui est assez exceptionnel. Et de ce point de vue, c'est un homme qui, à mon point de vue, s'il faut voir la manière dont il a géré, et donc il est très difficile à remplacer. À moins de trouver une autre perle rare qui pourra faire mieux que lui. Mais là, il faudra que le chef de l'État trouve, évidemment, au niveau de la classe politique, une personne qui pourra faire plus que Mme Ampogno. C'est peut-être là qu'il y a le plus grand piège.
Professeur, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasaï occidental.
Franck Moulanja, à partir de la ville de Kananga. Je voudrais savoir, les gouvernements de cohésion nationale concernent seulement les niveaux nationaux ou ça va s'étendre jusqu'au niveau des gouvernements provinciaux? C'est ça ma préoccupation.
Brève réaction, professeur.
Non, je crois que le gouvernement, l'ouverture qui est annoncée, dont le chef de l'État parlait, concerne bien le gouvernement au niveau central. Il ne s'agit pas d'un remaniement généralisé qui va atteindre tous les gouvernements au niveau provincial. Peut-être la question posée, oui, mais est-ce que les personnes qui vont entrer dans le gouvernement ne seront que des Quinois ou ce serait également personnalité venue de province? Et là, le chef de l'État pourra répondre à cette question.
Monsieur l'abbé Richard Mugaruka, il y a cette réaction pour vous.
Je suis Karouvara Ben Amine Fifi de la société civile du Sud Kivu, noyau territorial de Kabare, sous noyau de Bougoré. La libération des prisonniers politiques et la création d'un gouvernement de cohésion nationale avec des opposants et des acteurs de la société civile fabriqués, pour nous, cela n'améliorera pas la vie des citoyens congolais, mais vise plutôt à créer de l'emploi aux frères et aux amis de certains hommes au pouvoir. Pour preuve, beaucoup de bonnes résolutions existent sans mesure d'accompagnement. Aussi et surtout de non-respect de la loi.
Réaction, M. l'abbé, sur le gouvernement de cohésion nationale.
Tout d'abord, je pense que si l'on veut gouverner un État de manière démocratique, il faut s'en tenir et respecter les fondamentaux de la démocratie et la constitution du pays. Lorsque on parle des fondamentaux de la démocratie, cela signifie que on doit s'arranger de telle manière que le pouvoir soit entre les mains de la majorité, mais que les droits de la minorité ne soient pas méconnus. La démocratie, c'est la primauté de la loi de la majorité sans préjudice des droits et des droits fondamentaux de la minorité. Ça, c'est du côté des principes. Nous devons constater que lorsque chez nous, on parle de ce fameux gouvernement d'union, de cohésion nationale, et qu'on va y mettre tous les partis, y compris les partis de l'opposition, le danger c'est de nier, de mettre en cause la possibilité d'abord d'un débat contradictoire permanent, qui est une des caractéristiques fondamentales de la démocratie, un débat contradictoire permanent, et ensuite la responsabilité du seul parti majoritaire ou des partis majoritaires qui sont au pouvoir. C'est-à-dire, en d'autres termes, en créant un gouvernement d'union nationale où il n'y a pas d'opposants, on met en question un des principes fondamentaux de la démocratie, qui est donc le débat contradictoire et le refus de l'unanimisme. C'est-à-dire, à la fin du mandat, on ne saura pas qui est responsable du passif et qui est responsable de l'actif, parce que dans tout bilan, il y a toujours un passif et un actif, et il sera très très difficile d'assurer cette alternance ou ne fût-ce que l'alternance au pouvoir qui est une des conditions fondamentales de la démocratie, étant donné qu'il n'y aura pas de parti qui sera responsable du bilan du gouvernement. Et ça, pour moi, c'est une faute très grave. En second lieu, il me semble que aujourd'hui, il faut que nous apprenions aux politiciens à être responsables, c'est-à-dire à assumer le passif. On a tenu les concertations nationales. Le fait qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a absence de cohésion nationale, cela a des raisons. Et s'il y a des raisons, il doit y avoir des responsables. On n'a établi ni ses causes, ni ses responsabilités, avec comme conséquence qu'il sera très difficile d'arriver à des réformes vraiment valables, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si d'aventure les responsables de la situation actuelle restent en place, il ne sera pas facile, il ne sera pas possible de changer la situation. Enfin,
Monsieur l'abbé.
Oui, pardon.
Voilà, il nous reste moins de 4 minutes. Je vais vous accorder la parole déjà pour conclure. Après ce discours du président de la République, comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC? Vous semblez vous inquiéter brièvement, je vous en prie, en guise de conclusion.
Je crois qu'il faut que nous rappelions à notre classe politique la nécessité de respecter les fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire le dialogue contradictoire. Il faut éviter de créer l'unanimisme. Il ne faut pas que gouvernement de cohésion nationale signifie que désormais tout le monde va accepter une seule, la pensée unique, celle qui est de la majorité présidentielle. Il serait même de bon ton que les opposants refusent d'entrer dans ce gouvernement, non pas parce qu'ils sont contre le pays, mais parce qu'ils veulent que le débat contradictoire continue à favoriser, si vous voulez, le débat, parce que chauffe des idées, j'ai la lumière.
Merci, Monsieur l'abbé Richard Mugaruka. Maître Richard Bondo, après ce discours du président de la République, comment vous entrevoyez l'avenir de la RDC?
Moi, l'avenir, si je m'en tiens d'abord à cette affaire de gouvernement de cohésion nationale, je voudrais simplement dire que pour que le président de la République ne prête pas le flanc à un putsch constitutionnel, il va falloir que, à la lumière de l'article 3 de la loi sur l'opposition, ceux qui veulent appartenir à la majorité de ceux de l'opposition fassent une déclaration. C'est prévu à l'article 3 de la loi sur l'opposition. Fassent une déclaration de leur appartenance désormais à la majorité. Et à ce moment-là, l'avenir du pays pourra être en quelque sorte prometteur au simple motif que dans ce pays-là, il y a une majorité qui gouverne. Merci. Et ceux qui restent à l'opposition seront comptés au bout de deux, mais ils formeront l'opposition pour un débat contradictoire, un dialogue politique contradictoire, comme vient de le souligner le professeur Mugaruka.
Professeur Félicien Kabamba, vous également, comment vous voyez l'avenir de la RDC après le discours du président de la République?
Oui, mais je crois qu'il est très important de souligner vers quelle démocratie veut-on aller. Est-ce une démocratie majoritaire, où c'est la majorité qui a le pouvoir qui règne, ou une démocratie consociative qui repose sur l'idée du dialogue, l'idée de concertation, mais aussi l'idée de partage? Et il m'a semblé que dans les sociétés dirigées, caractérisées par la guerre, par le conflit, c'est plutôt la démocratie consociative qui semblait être appropriée, parce qu'elle résolvait évidemment le problème, non seulement d'appétit, mais de pouvoir, quand on voit comment tout le monde veut accéder au pouvoir, les uns prennent les armes et les autres utilisent d'autres genres de moyens. Il m'a semblé qu'on a expérimenté ça et là, l'option consociative.
Merci.
La démocratie peut être une démocratie majoritaire, elle peut également être une démocratie consociative. Toutes les deux restent les démocraties. Et donc, il faut là déterminer vers quel type de démocratie la RDC veut.
Merci, professeur.
Et ça, c'est une question essentielle.
Merci, professeur. Maître Bon. Merci, Maître Bondo. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Guy Maté, Kevin Couté, Alain Goy et Patrick Kerfongwa étaient à la technique. Sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, présentation et coordination, Alain Hirongo-Mouchinge. Au revoir.